avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
À 10h pile, bien bonjour dans l'heure CV. J'espère que vous allez bien en ce mardi, et j'allais dire lundi. Non, mardi déjà, semaine de 4 jours, on le sait. Sous le soleil incroyable à Québec. Faut s'habiller un peu, par exemple, parce que ben il fait beau, mais il fait un peu frisquet. Hier, c'était-tu beau comme journée aussi, hein? C'était chaud. Mais là, c'est ça. On se dirige dans une semaine, somme toute, très agréable, avec des températures printanières. Ça coule partout, hein? Les érablières qui vont bon train. C'est des superbes journées. J'espère que pour vous aussi, ces jours-ci, autant la météo, Slow News Day aussi, on est un peu plus relax. Retour quand même du congé de Pascal, le congé de Pâques. Un beau congé de 4 jours pour la majorité des gens qui sont à l'écoute. Est-ce que vous en avez profité allègrement? Est-ce que ça a été majoritairement familial, personnel, amical? Dites-moi ça au 418-971-1021. On s'installe confortablement. Bon, c'est sûr que je disais Slow News Day. En général, c'est qu'il n'y a pas une nouvelle à scandale, hein, comme on a eu beaucoup dans les dernières semaines. Mais il y a plusieurs petites nouvelles ici et là, et beaucoup au fédéral. Je sais qu'on n'a pas parlé beaucoup de politique fédérale dernièrement parce qu'il n'y a pas eu assez de frasques, il faut croire, ou encore le provincial a éclipsé absolument tout. Mais il y a des choses à aller voir, entre autres, avec le budget du fédéral. Il y a des choses à aller voir avec Poilievre aussi, on va aller en jaser. Et aux États-Unis, Donald Trump fait prendre des risques très importants à ses avocats. Ouais, puis on va aller jaser de ça. Faut croire qu'il voit soit l'opportunité d'affaires, soit faire de l'argent pendant de nombreuses années en tentant de défendre Donald Trump, même s'ils perdent leur licence ou autre. Ou bien, ils se disent qu'il y a quelque chose dans l'exercice de droit qui pourrait me faire passer à l'histoire. Il y a peut-être ça aussi. Prenez votre temps pour vous installer confortablement. Les gars de Rage Against le matin ont terminé l'émission avec bonne humeur. Ils seront de retour dès demain et ils ont justement, fait passer certains indices importants pour le gros concours de Boulevard 102.1 parce qu'on vous envoie voir du baseball et voir un show rock. Le show rock, c'est Blink 182. Le baseball, les Blue Jays contre les Giants au Oracle Park. Ça sera à San Francisco en juillet prochain. Quand même un peu trippant comme concours. Restez à l'écoute. Je vous donne toutes les façons de participer. C'est sûr, dans leur CV. Il y aura Frédéric Bérard aujourd'hui avec nous. Bien que nous sommes mardi, il a décidé de commencer la semaine malgré tout. Lors de sa chronique hebdomadaire, d'habitude, c'est le lundi. Et là, il a décidé d'être avec nous en ce mardi. 10h03, on va y aller tranquillement. Caravane, avec une chanson qu'on passe pas souvent ici à Boulevard 102.1. On a décidé de leur laisser encore plus de place. Puis en plus, vous les aimez foncièrement parce que dans la Société secrète, le groupe dans lequel vous pouviez vous inscrire pour choisir la musique qui allait passer sur nos ondes, Caravane revient souvent avec Wow Minute dans votre radio. En ce mardi ensoleillé, buvez donc le son.
Pascal CV.
Je sais pas ce qui se passe avec tous les rappers de l'industrie, surtout des années 90-2000, mais ils se sont comme tapés dans la main pour partir en tournée un peu partout, puis surtout à Québec. Surtout ici, dans le coin du Québec, peut-être aussi at large. Quelqu'un qui nous dit bon retour encore live de la Californie. Salut à Carl par texto 88-971-1021. Et pourquoi je le mets en lumière? C'est parce que ça va un peu avec ce qu'on vient d'apprendre. Mon collègue Thomas Gauthier qui entre en trompe dans le studio pour dire qu'on vient d'avoir un communiqué. Cet artiste viendra performer dans les prochaines semaines au Centre Vidéotron. Après le Super Bowl,
when the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot.
Snoop Dogg s'en vient au Centre Vidéotron. Il sera tout en fumée ici dans la ville de Québec. Ouais, les gens commencent à écrire pas mal. 50 Cent, Snoop Dogg, qui on a annoncé aussi Exhibit récemment. Il y a une gang de rappers qui ont décidé, je pense, de regarnir leur coffre ou de faire triper les nostalgiques. Mais Snoop Dogg sera ici de passage au Centre Vidéotron le 6 juin prochain. En direct de son bandana, ses lunettes fumées, puis tout ce que vous voulez, ben il va venir performer. Vous commencez déjà à dire, ben pourquoi il n'était pas ses plaines d'Abraham? Ben peut-être à cause de ça, je sais pas. Il s'était déjà à l'horaire que Snoop Dogg vienne au Centre Vidéotron, je sais pas. Puis on s'est dit, ben collé entre un Centre Vidéotron puis, puis le Festival d'été de Québec, c'est peut-être pas la meilleure option. Mais de son vrai nom, Calvin Cardoza Brodus, ben il sera ici au Centre Vidéotron le 6 juin prochain. Si vous voulez, si vous voulez des billets, d'après moi, ils seront en vente très bientôt si c'est en juin. Plusieurs classiques quand même pour Snoop Dogg. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young. Autre que sa apparition au Super Bowl qui m'avait quand même impressionné avec tous les has-beens qui l'accompagnaient pour notre grand bonheur, ben Snoop Dogg est un homme d'affaires, je veux dire, ferré, là, homme d'affaires. Si vous ne le saviez pas dans les dernières années, il a réussi à faire beaucoup d'argent en étant justement entrepreneur. Puis, bon, il yeutait aussi beaucoup d'équipes sportives. Je pense que Snoop Dogg est en train de revenir à la vie, comme on dit, pour les prochaines années. Il s'en va dans toutes sortes de secteurs pour triper, puis ben il viendra ici dans notre secteur à Québec, comme je vous rappelle, au Centre Vidéotron. Courte pause et de l'autre côté, on reçoit notre chroniqueur hebdomadaire Frédéric Bérard.
Vous rêvez de prendre la route des sensations fortes au guidon d'un tout nouveau Can-Am Spyder ou Ryker? Passez du rêve à la réalité et rendez-vous chez Adrenaline Sport. Obtenez une année de protection supplémentaire sur les modèles 2024 et...
C'est sous le soleil qu'on vous accompagne aujourd'hui. Ouais, c'est partout dans la grande région de Québec, cette belle température-là. Ça peut monter jusqu'à 6 degrés aujourd'hui, mais là, on est loin du maximum. Je vous dirais qu'on monte tranquillement, pas vite, parce qu'on a moins 2. Ouais, c'est un peu plus frais. Faut peut-être mettre la tuque, un bon manteau. Ce soir et cette nuit, c'est moins 2. Demain, mercredi, 4 degrés comme maximum. Un genre de journée comme aujourd'hui, là, plein soleil avec quelques nuages. Jeudi, vendredi, ouais, là, possibilité d'averse de neige ou de pluie. Peut-être que ça va extensionner un peu la saison de ski. Ski de printemps, quelque chose de fun là-dedans. Et à partir de samedi prochain, puis ça s'en vient rapidement, je vous rappelle, on a une semaine de 4 jours, ce sera du soleil, puis les températures vont monter jusqu'à 13. Là. Vraiment, on commence à ressentir tout ce qui est printanier ici à Québec. Je ne sais pas pour Montréal, d'habitude, ils sont en avance un peu sur nous. On va aller demander à notre chroniqueur du lundi, normalement. Salut Frédéric Bérard! Est-ce que tu m'entends, Frédéric?
Très bien, merci.
Ah, voilà. Est-ce que le soleil est à Montréal?
Même pas. Écoute, vous avez tout pris à Québec, hein, comme d'habitude. Nous, on se contente de miettes quand ça se trouve.
Écoute, ça va normalement à ceux qui le méritent, là, mais ça, on pourra en faire un débat. Là.
J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de débat sur le mérite. J'ai juste constaté un état de fait, c'est tout.
Ah, ben d'habitude, vous avez le printemps avant nous, mais là, c'est pas le cas, ben, pour aujourd'hui, du moins. Écoute, il y a tellement de sujets. Moi, je disais que c'est un slow news day. Il y a des petites affaires importantes qui sont sorties. Oui, il y a eu des annonces de Trudeau, là, puis il y en aura jusqu'au 16 avril prochain parce que ben, le budget fédéral 2024 est lancé. Mais il y a des trucs qui sont tombés sous le couvert parce que ben, on était en congé de 4 jours, puis c'est souvent le cas. Hein, dans un long congé, tout ce qui est pacotille politique, et on passe à autre chose rapidement. Cependant, il y a des trucs assez importants qui touchent monsieur, madame, tout le monde, qui sont arrivés et qui mêlent les fameux sujets de critiques et de polémiques habituelles, surtout quand on parle de langue française ou d'anglais. Oui. Puis, il y a un petit quelque chose qui a été mélangé au sport aussi, avec le hockey, entre autres des inscriptions en anglais pour des clubs du Québec qui devront être traduites. On veut aussi que ça se passe le plus possible en français, même dans les vestiaires. Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, auteur, tu as toujours quelque chose à dire sur ce genre de sujet-là.
Ben écoute, on a vu hein, les voltigeurs de Drummondville qui avaient une espèce de kangourou avec une inscription uniquement en anglais, et ça a soulevé l'ire du Parti québécois de Saint-Pierre-Plamondon qui a réclamé une commission parlementaire là-dessus. Puis il y a des chroniqueurs au Journal de Montréal qui dit que la Légion majeure de hockey du Québec est en train de tuer le français. Je voudrais peut-être pas virer fou, là. T'sais,
Mais
ça
c'est ça,
va.
c'est-tu un peu de l'abus? C'est-tu, on cherchait comment ramener la langue française et le débat dans l'actualité, puis on a vu ces hoodies-là, tiens, je vais le dire, pour faire frissonner Paul Saint-Pierre Plamondon en anglais, puis on a dit, hey, ça, c'est notre façon de le ramener?
Écoute, je vais tester le prince de Talleyrand, qui disait ceci: tout ce qui est exagéré est insignifiant.
Ah, j'aime donc bien ça!
Ouais, j'ai l'impression qu'on n'est pas pire dans l'insignifiance. Puis je te raconte un autre petit truc vite. Tu sais, on a fait des entrevues ensemble quand j'étais là-bas en Amérique centrale, au Nicaragua, où les gens craignaient pour leur vie du fait du gouvernement, au Salvador, craignaient pour leur vie maintenant du fait du crime organisé. Et quand j'étais là, puis ça brassait, puis je savais jamais comment mes journées allaient finir, j'allais fouiller les nouvelles du Québec. Et les deux grosses histoires étaient l'éclipse scolaire et la dinde de Louisville.
Oui, de Louisville, attention, t'avais mal lu.
Ben, en plus, tu vois, et là, tu te dis dans ce temps-là, ben, peut-être qu'on vit d'une société où ça va pas trop mal. Tu sais, quand t'es deux gros sujets médiatiques, c'est une dinde puis une éclipse, c'est peut-être pas la fin du monde. Alors, pour venir à ce même vestiaire, le problème, c'est que Plamondon fait de la grosse démagogie là-dessus, parce que n'importe quel journaliste qui couvre cette ligue-là va te dire qu'avec les entraîneurs, ça se passe en français, les entrevues sont en français, dans les vestiaires, on parle français, le personnel est francophone. Oui, ça peut arriver qu'il y ait des mots, évidemment, qui s'échangent en anglais, ils n'ont pas trop le choix, parce que parfois, ils ont des joueurs européens ou ils ont des anglophones aussi maintenant avec les provinces maritimes. Mais de là à réclamer une commission parlementaire, surtout sachant que La Ligue nationale de hockey opère en anglais en très bonne partie. Ils sont en train de préparer ces jeunes-là ici et là du mieux qu'ils peuvent. Bref, tout ceci est drôlement charrié, si tu veux mon avis. C'est une tempête dans un verre d'eau et ça fait en sorte que le PQ, à mon avis, perd de la crédibilité avec ce genre d'offensive-là.
Mais pourquoi est-ce que d'abord on décide d'aller de l'avant avec, je sais pas moi, je vais l'appeler un faux scandale comme celui-là? C'est vraiment pour faire parler. En même temps, je veux dire, ils sont sur les chapeaux de roue depuis plusieurs semaines. On les voit dépasser la CAQ puis arrivent avec des histoires comme ça qui, finalement, quand je lis les textos, je pourrais reprendre une phrase qui dit « c'est de l'enculage de mouche inutile ».
Écoute, qu'on soit à l'affût de la protection du français, l'essor, je pense que pour la grande majorité, on est d'accord avec ça, mais je te réfère à nouveau au prince de Talleyrand. Est-ce qu'on n'est pas dans une insignifiance complète? Puis à force d'avoir l'air insignifiant, ben, tu perds de la crédibilité sur des trucs qui sont importants.
Oui, puis des fois, c'est pas à force. Des fois, ça en prend juste une fois. Mais là, on sortait de Paul Saint-Pierre Plamondon et du PQ, là, mais quand même, ça, c'est pas nécessairement le sujet qui... Bien, ils n'auront pas réussi, parce que je le voyais plus dans la presse ce matin, ils n'auront pas réussi leur petite stratégie de communication pour ramener le parti dans l'actualité. On a essayé fort, mais en congé Pascal...
Ouais.
C'est peut-être un peu plus complexe. Oh, Seigneur! Polièvre aussi fait l'actualité parce qu'il promet d'abroger le fait de... Bon, enfin, je vais le résumer autrement. La taxe carbone. On n'a pas souvent parlé ensemble, Frédéric. C'est partout depuis des semaines. Ça ne fait pas l'unanimité. Peut-être que tu pourrais répéter c'est quoi. Puis Polièvre avait sa façon de voir les choses. Alors, clairement, c'est pas son dada, lui, la taxe carbone. Puis il va jouer aux prochaines élections sur le fait qu'il ne souhaite pas là, la faire passer.
En fait, il souhaite l'abroger de manière pure et simple.
Ouais.
Et malheureusement, peut-être, mais c'est parce que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est plate à dire, mais ça va prendre des mesures. Et la taxe carbone a été éprouvée à plusieurs endroits en Europe. Ça fonctionne. Les experts sont pratiquement unanimes. C'est une bonne mesure. Est-ce que c'est suffisant pour lutter contre le réchauffement? Non. Mais c'est clairement une bonne mesure. Puis là, j'invite les gens qui m'écoutent, puis il y en a qui sont fâchés contre la taxe carbone.
Je te dirais la majorité des auditeurs quand on en parle.
C'est parfait, je comprends ça, mais je vous dis juste, il faut distinguer le « ah, ben ça fait pas mon affaire » du « c'est bon ou c'est pas bon ». En d'autres termes, c'est pas parce que ça fait pas notre affaire que c'est mauvais en soi, comme plusieurs autres choses dans la vie. Tu sais, par exemple, quand on avait, je sais pas moi, quand le gouvernement avait interdit l'usage du tabac dans les espaces publics, ça avait fait chialer sur un moyen temps. Et la réalité, c'est que c'était une bonne mesure qui était recommandée par les experts de santé publique. Or, les experts en matière environnementale et d'un point de vue économie-fiscalité, parce que souvent, ça va ensemble, te disent, je le répète, il faut aller voir, c'est clair, là. Sont unanimes ou à peu près, c'est une bonne mesure. C'est pas suffisant, mais c'est une bonne mesure. Or, Pierre Poilievre, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'aiment, puis je ne veux pas insulter personne, mais est allé dire quelque chose qui est, à mon avis, très symptomatique du programme qu'il propose. Et moi, ça m'inquiète. Il est allé dire, bien, les experts ont bien beau être unanimes, moi, je m'en fous, je vais abroger cette taxe-là parce que ça va être ça, puis that's it.
Si on est-ce qu'on peut y en vouloir d'avoir sa ligne politique, par exemple?
Non.
Puis là, je fais l'avocat du diable. Là, parce que
non,
bon,
non, mais tu as tout à fait raison de le dire et de le faire. Parce que c'est une ligne politique. La question, puis ça fait plaisir aux gens d'entendre ça. Puis il y en a plusieurs qui vont voter Poilievre, notamment pour ça, en disant, j'espère, on s'en fout. Nous, bon, on n'en veut plus de taxes. Bon, ça, je comprends ce réflexe-là. Moi, je ne blâme pas les gens, je ne blâme pas tes auditeurs, tes auditrices d'embarquer dans ce discours-là, parce que, je veux dire, c'est nécessairement attrayant. Et c'est pour ça que Poilievre le propose. Par contre, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, quand je parle de politique, c'est le bien commun. Et le bien commun, ben, c'est de faire en sorte de stopper le réchauffement climatique. Là, évidemment, il y en a qui vont dire on ne peut rien faire si la Chine ne fait rien, on ne peut rien faire si les États-Unis ne font rien, nous, on est juste au Québec, au Canada, puis ça, je comprends ça aussi. Mais la réalité, c'est que si toute la planète consommait comme les Canadiens, on aurait besoin de 4,4 planètes pour suffire. En d'autres termes, on consomme plus, imagine-toi, on émet plus de GES que les Chinois puis les Indiens au prorata, là. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'il faut faire quelque chose? J'espère que oui. Puis là, les experts te disent, voici une des manières d'opérer. Alors, Poilievre dit, moi, je m'en fous des experts. Puis, s'ils donnaient une contre-expertise, là, je dis pas. Tu sais, s'ils disaient, regarde, moi, ces experts-là, j'y crois pas. Moi, j'ai d'autres experts qui disent le contraire. Et là, ça devient un débat d'experts. Puis là, ça devient, justement, porteur, intéressant. Mais c'est pas ça. Ils disent, les experts, je m'en fous. Fini. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Et ça, je commence à trouver ça problématique. Parce que si tu rejettes la science... Parce qu'un expert, dans ce cas-ci, c'est nécessairement une science. Ça peut être une science sociale, quoique la fiscalité, c'est quand même pas une science molle. Bien là, c'est quoi la prochaine étape? Si on n'a plus besoin de science, on navigue quoi à l'œil, dépendamment de la volonté populaire. Tu sais, nos sociétés, Pascal, se sont construites sur des universités qui développent les meilleurs cerveaux pour faire de la recherche, pour faire avancer notre société dans le bon sens, je pense.
Sais-tu, moi, c'est là où tu m'attrapes dans le débat, puis tu me fais réfléchir, mettons, socialement, puis, bon, collectivement, c'est de se dire, bon, quand on va faire, en tant que, comme politique ou femme politique, quand on fait de la politique, oui, nos opinions, nos façons de voir les choses, mais sur quoi on devrait se baser, finalement? Sur le souhait populaire ou encore, on a un devoir politique, en tant qu'homme ou femme au pouvoir, de se renseigner auprès d'experts, puis peut-être que ben, ce ne sera pas toujours des experts qui sont en accord avec nous, ou encore, ben, de oui, aller chercher des expertises qui peut-être vont dans le sens de notre discours, là, t'sais, ça, c'est toujours possible, mais aller chercher le noir et le blanc, c'est toujours un avantage supplémentaire. Mais quelle est, en fait, l'éthique politique là-dedans? Moi, je pense que le point très intéressant de la discussion en ce moment, c'est ça. Est-ce éthique politiquement de se dire, ben voici moi ce que j'en pense, soit je me fous des experts, je souhaite qu'on aille totalement à gauche quand on allait à droite, par exemple, avec cette taxe carbone-là, peu importe ce que les experts croient et disent. Ou, justement, de faire de la politique avec études, avec constats ou autre. Puis c'est là où je suis divisée. Je suis pas certaine, mais je sais par contre où je suis certaine, c'est que j'aurais peur effectivement que ce soit de la politique seulement d'opinion ou encore de choix populaires pour être justement à la tête d'un pays. Pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais pour le côté populaire ou le côté du contrôle, le côté du pouvoir. Puis c'est là où je trouve que la question sociale collective est intéressante aussi.
Moi, je trouve que je dois bien te dire que c'est la meilleure question qu'on me pose dans toutes mes chroniques depuis quelques semaines déjà. Alors, bravo, tu mérites la petite couronne en plastique ou en ce que tu voudras. Quelle est l'éthique politicienne?
Oui.
Et tu vois, Pierre Poilievre, c'est vraiment pas un nono, là. C'est un gars archi intelligent, vraiment, mais il a décidé de faire fi de la science. Et ça devient drôlement compliqué, là. Parce que, encore là, puis je veux pas le planter, parce que je sais que beaucoup de tes auditeurs l'aiment, puis c'est correct. Mais il est allé dire à quelques reprises, vous avez ça là, sur des vidéos, il dit que l'électricité est produite par des éclairs. Ben non, c'est parce que non, c'est pas vrai ça. Donc, en d'autres termes, à quel point on est... Puis je comprends que les gens sont tannés de Trudeau, ils veulent qu'ils débarrassent, ils veulent du changement, puis Poilievre a l'air de parler pour le vrai monde et tout. Ça, c'est bien correct. Mais c'est parce que voulez-vous vraiment aller dans cette direction-là? Dans le sens où il y a moyen d'être proche des gens, mais de respecter leur intelligence. Par exemple, René Lévesque faisait ça souvent, d'autres politiciens aussi. Or, ici, si tu me dis que la science ne t'intéresse pas, parce que tu sais que ça va faire plaisir à une certaine tranche de la population qui est de plus en plus importante, moi, non seulement ça m'inquiète, mais ça me terrorise en quelque sorte. Parce que si on n'a plus de sens de science dans nos sociétés, c'est quoi la prochaine étape?
Mais ce que je trouve intéressant, les textos qui entrent, Frédéric, là-dedans aussi, ce qu'on dit, ben oui, mais ça dépend aussi de nos priorités en politique. Par exemple, ben, une étude qui dépend de la finance, pour moi, c'est important en ce moment. Puis je trouve qu'on a tellement de problèmes à régler. Tu sais, un argumentaire comme ça, moi, j'adhère à quelqu'un qui arrive avec un argumentaire du genre, ma position politique est majoritairement économique en ce moment plutôt qu'environnementale. Après, on peut s'obstiner, on peut avoir des débats sur qu'est-ce qui est prioritaire ou pas, mais ce type d'argument-là, il est intéressant malgré tout. Après, quelqu'un qui y va avec un petit peu plus de torque dans son commentaire, le peuple, s'il est attardé, faudrait quand même pas trop l'écouter. Ben là, on parle pas de nous en général, mais je pense qu'on fait une image sur, t'sais, si on prend une gang de méconnaissants sur un sujet, puis on leur demande justement de passer leur position en politique puis en projet de loi, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. T'sais, puis là, on sortait un peu du contexte, là.
Si je peux me permettre, quand Donald Trump disait que la pandémie n'existe pas, c'est un hoax, un des plus hauts taux de mortalité en Occident, ça a été justement, les deux plus hauts taux, ça a été aux États-Unis et au Brésil. Trump et Bolsonaro disaient que ça n'existait pas. Trump a même invité des gens à boire de l'eau de Javel. Ben là, il faut se décider, ça existe ou ça n'existe pas? Ça n'existe pas, pourquoi tu demandes aux gens de boire de l'eau de Javel? Ça, c'est une autre question. Mais l'autre affaire, c'est que tu as un président des États-Unis qui dit « buvez de l'eau de Javel ». Qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? Il ben, y en a qui ont bu de l'eau de Javel, puis ils sont morts parce que c'est pas bon pour de l'eau de Javel, pour ceux qui ne savent
Ne
pas.
l'essayez pas.
Non, mais voilà, fait que on est rendu dans une ère absolument surréaliste où un président du pays, le président du pays le plus important au monde, te dit « buvez de l'eau de Javel ». Pourquoi? Ben parce que la science, je m'en fous. Puis comment ça se passe ça, quand on a cette tendance de fond-là qui s'installe, puis on rejette la science? Si on rejette la science, on rejette la science médicale aussi. Si on rejette la science, on rejette toutes les questions de transport, d'aéronautique, de tout ce que tu veux. Nos sociétés ont été basées sur un progrès qui, lui, est basé sur la recherche universitaire et scientifique. Bref, d'avoir un politicien qui rejette ça du revers de la main en disant... Je vais faire ce qui me plaît, c'est-à-dire ce que les gens souhaitent. OK, on peut l'essayer, mais moi, je suis prêt à gager qu'on va s'en parler dans 5-7 ans, puis on ne va pas trouver que c'était fameux, là.
Mais il y a une fluidité là-dedans. Il y a assurément beaucoup de constats à faire. Puis il y a un questionnement intéressant. Puis je pense que je donnerais quasiment telle une maîtresse d'école, on dit enseignante, là. Parce qu'en plus, il y a un commentaire.
Oui, ça fait
Salutations en passant.
décalé un peu.
Tu sais, Frédéric, on fait une parenthèse, là, mais quand on est sur Twitch, vous pouvez vous joindre à nous. Mais je veux juste souligner, saluer, en fait, Caramba 117, qui pourrait quitter le Twitch sans problème en ce moment parce que j'ai pas le contrôle. Je suis en onde avec toi. Mais le genre de commentaire de Caramba 117, on peut. Ça, c'est particulier, hein? Travailler avec son image, des fois, mon cher Frédéric.
C'est quoi l'affaire de l'image de Twitch? J'ai pas compris.
Mais on est sur Twitch, twitch.tv/BLVD/FM. Puis il y a des caméras en studio. Puis parfois, il y a des, je dirais, des indésirables qui se glissent dans la conversation. Puis qui ont vraiment pas de filtre non plus. C'est un peu à la buvée de l'eau de Javel, mais.
On les salue.
Oui, on les salue et on leur dit merci, non merci. Mais je voulais revenir à notre débat, mais c'est fluide quand même. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on crée notre société aussi par rapport aux priorités de tous et chacun. Puis on peut avoir ces débats-là, mais est-ce qu'ils sont toujours sains? La réponse est non. Puis il faut en venir au fait que ça doit être sain, peut-être en se basant sur ce qui a été prouvé et autres. Bon, je clôt ce sujet-là parce qu'il y en a deux petits que je souhaite faire avec toi avant de te laisser
Oui.
partir, Frédéric. Trump, entre autres, est dans l'actualité ce matin. Puis moi, je trouve ça hyper intéressant. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais ce qui se passe aux États-Unis, soit les avocats de Trump qui vont le défendre corps et âme. Moi, je vois deux, quitte à perdre leur licence, là, quitte à ne plus pouvoir exercer comme avocat dans le futur. Je le voyais en deux branches dans mon analyse ce matin en lisant tout ça. Je me disais, bon, la première, c'est Trump peut les payer jusqu'à mort sans suivre, puis il n'y a pas de problème. Fait que s'il arrête à un moment donné d'exercer, fort probablement que Trump pourrait donner une compensation financière en disant, on prend le risque ensemble, je vous dédommage pour la suite si jamais vous n'avez plus le droit d'exercer. passer. La deuxième, c'est peut-être le genre de « je voudrais passer à l'histoire pour ce genre de cause-là si je la gagne en tant qu'avocat ». Comment tu vois ça, toi?
Pour mettre les gens en contexte, tu l'as dit un peu, hein, c'est que là, il y a des avocats qui sont sur le point de se faire radier. Là. Puis comment ça fonctionne? C'est que le barreau, qui est l'ordre professionnel des avocats, détermine s'il y a eu des fautes déontologiques suffisamment graves pour une radiation. On n'est pas dans un cadre criminel, on n'est pas dans un cadre civil, c'est vraiment un cadre professionnel. Or, il y a plusieurs des avocats, des avocates qui ont soutenu Trump après l'insurrection du 6 janvier, qui sont allés dire « oui, oui, il s'est fait voler l'élection, patati, patata ». Et là, il y en a plusieurs qui, une fois traînés devant leur ordre professionnel, il y en a une notamment qui s'est mise à pleurer et dit « oui, oui, j'ai dit ça, là, mais bon, j'étais un peu obligé, je ne le pensais pas vraiment, ceci, ça, ça ». Puis le barreau a dit « OK, garde correct, refais-le plus, là, puis on n'en parle plus ». Mais là, il y en a un présentement qui est en train, qui est en pleine audience. Puis là, les avocats, ils commencent à le brasser, les avocats du syndic et tout. Puis il finit par dire « oui, j'ai dit ça, mais c'est pas c'est vrai ». Il dit « quoi, c'est vrai ». C'est vrai que le président Trump s'est fait voler l'élection. Il dit OK, ben, à vous des preuves de ça. J'ai pas besoin, tout le monde le sait. Bon, puis là, parce que, OK, mais on est dans la maison des fous, là. Puis ça revient un peu à notre premier sujet. Dire, oui, on peut débattre. Est-ce que j'aime mieux l'économie, l'environnement? Si ça, c'est bien correct. Mais encore faut-il qu'il y ait une espèce de lien rationnel qui unisse les discussions. Or, ici, puis c'est ça la magie de Trump, c'est de créer un univers parfaitement parallèle où les faits n'ont plus d'importance, puis on peut dire n'importe quoi. Et là, tu as même des avocats, et pas des maudites farces, là, qui continuent à dire « oui, 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 il s'est fait voler l'élection, prouvez-le, j'ai pas besoin de le faire ». Mais là, c'est parce que c'est quoi la prochaine étape, encore une fois? Fait que, bref, ça va mal finir. Puis là, tu me dis « est-ce que ces gens-là vont être payés par Trump? » Je pense que Trump, il est rendu à vendre des bibes à 60$. Là, je pense qu'il gratte les fonds de tiroir un petit brin. Là.
Ou il fait parler de lui. Là. Tu sais, je veux dire, Poilievre aussi a fait une grande allocution de Pâques là, en faisant référence à Saint-Pierre puis la Bible. Puis, tu sais, il reste quand même dans leur électorat là, en y allant avec la religion et tout. Là.
Oui, puis ça, c'est inquiétant un peu parce que tu sais que ce discours-là, c'est pour faire plaisir à des fondamentalistes. Qui fait rarement bon ménage avec la politique. Là, on voit ce qui se passe aux États-Unis où là, on est rendu sur le point d'abolir les pilules contraceptives puis toutes sortes de trucs du genre. En tout cas, bref, m'éloigne un peu, mais tout ça pour dire quoi? C'est qu'il y a vraiment, puis ça, c'est la trame de fond de notre discussion ce matin, Pascal, je pense, il y a vraiment un univers parallèle qui est en train de se créer, récupéré, instrumentalisé, galvanisé par les politiciens et certains médias. Et là, on va se retrouver dans 1984 de George Orwell dans pas long, si c'est pas déjà commencé.
Ah, mon Dieu! Frédéric, mais je comprends ce que tu dis, la référence, mais somme toute assez comique. Hey, je vais terminer avec un décès qu'on a mentionné dans les médias dans les dernières heures. Puis je ne suis pas certaine que tout le monde a compris ou encore le connaît, mais l'ex-ministre québécois Benoît Pelletier, qui a été quand même un homme très, très important au sein du Parti libéral, sous Jean Charest, est décédé samedi. Il est décédé au Mexique. C'est sa famille qui a annoncé tout ça. Il avait 64 ans. Tu voulais en glisser un petit mot?
Oui, bien écoute, ça a été un ministre très important hein, dans le gouvernement de Charest, là, qu'on ait aimé ou pas ce gouvernement-là.
Professeur de droit, entre autres aussi, droit constitutionnel, donc on est dans ta branche.
Oui, en fait, puis c'est drôle parce que moi et Benoît, on avait écrit un livre ensemble en 2007. On était une couple d'auteurs, là, mais c'est là que je l'avais connu. Et puis on a fait des dossiers à la Cour supérieure, un contre l'autre par la suite, puis... Mais la réalité, c'est que le gars était tellement fin. Je te raconte une anecdote.
Vas-y.
Pour finir. J'ai vraiment vu ça, quelqu'un de gentil comme ça. Tu sais, quand tu dis, c'est pas juste un bon gars, c'est d'une gentillesse exquise. Bref, dans ce dossier-là, c'était en 2021, je pense. Lui, c'est un des experts du gouvernement du Québec. Moi, je suis l'avocat plaideur de l'autre bord, un des avocats plaideurs. Et là, la façon que ça fonctionne, c'est quand il y a des trucs du genre, bien là, tu contre-interroges l'expert pour essayer de soulever les failles dans son témoignage, puis blablabla. Tu sais, c'est le modus operandi classique et tout. Alors là, cet après-midi-là, c'est à son tour, puis moi, j'avais lu son rapport parce qu'on travaille souvent sur les mêmes choses, le droit constitutionnel, la langue, des trucs de même. Puis là, je trouvais que des fois, il avait étiré l'élastique un peu trop, puis c'est correct, on fait tout ça. Fait que dans le contre-interrogatoire, disons qu'on y a payé une pas pire traite, là, disons ça de même. Puis habituellement, ces affaires-là, c'est long, puis t'as hâte de t'en aller, là, parce que c'est pas le fun pour l'expert, puis ça fait partie de la game. Mais écoute, lui, à la fin, le juge lui dit, « Bon, alors, M. Pelletier, la Cour va vous laisser aller, on vous remercie de votre témoignage. » Et là, habituellement, les témoins, ils disent merci, monsieur le juge, puis ils sacrent le camp, puis ils s'en vont soit se rouler en petite boule chez eux, dans le coin de la salle de bain, ou ils s'en vont prendre une bière à taverne. Mais lui, il dit, bien, monsieur le juge, c'est moi qui vous remercie. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis là, il
Ah.
nous regarde, puis il dit, merci, messieurs, maîtres, ça a été vraiment agréable. Je vous souhaite à tous et chacun une excellente fin de journée. Puis là, mon chum, qui est avocat avec moi, il dit, donc, il nous niaise-tu? Je dis, non, non, il est gentil comme ça tout le temps, là. C'est tout pour lui, là. C'était un beau moment à passer. C'était fantastique. Bref,
C'est très
ça.
gentleman, j'aime ça. Ça fait
Oui.
partie. En fait, je trouve que ça décrit la personne dans son métier. Donc, pour lui, le droit, c'est important. Il comprend l'exercice qu'il vient de vivre. Il comprend ce qui a été fait en cour. C'est pas de l'ego, c'est pas de l'orgueil. Et ça, je trouve ça fabuleux, ce que tu viens de raconter, Frédéric.
Ben, écoute. Ça fait du bien, des gens comme ça. Puis Pelletier faisait le pont entre plusieurs factions. Alors, évidemment, salutations à son âme et esprit, puis condoléances à ses proches.
Oui, absolument. Tellement jeune, honnêtement. Puis il y a tellement de beaux commentaires qui entrent par texto en ce moment. Un chic type ressort beaucoup. Oui, M. Pelletier qui nous a quittés en fin de semaine. L'ex-ministre québécois Benoît Pelletier, un grand constitutionnaliste qu'on dit du Parti libéral sous Jean Charest. On perd des gros morceaux ces temps-ci, hein, Frédéric?
Ouais, ça va prendre d'autres gros morceaux bien vite pour remplacer les ouais, parce que c'est ça.
Pourront-ils être remplacés? Ça pourrait être une question de chronique au complet. La politique change tellement.
Ça se voudra.
Merci, Frédéric Bérard. Un bonheur de t'avoir parlé. On se retrouve lundi prochain dans l'heure CV. Avocat, chroniqueur, auteur. On se retrouve prochainement à Québec. Tu vas passer. Si tu veux venir en studio, t'es le bienvenu.
Hey, tu peux être sûr, je vais être au Salon du Livre le 12, mais on s'en jase.
Superbe. Bonne
Allez, à
journée
bientôt.
sous les nuages, mais nous, c'est du soleil, c'est
Oui,
ça, à
c'est ça que
Québec.
tu veux. On le mérite. Bye-bye.
Bye-bye. Gab Bouchard et Dépotoir à Boulevard 102. Hey, on revient dans un instant, puis merci d'avoir signalé les indésirables sur Twitch. Je peux compter sur vous pendant qu'on est en intervention. J'adore ça.
L'heure CV avec Pascal CV.
Ah, Seigneur, on se... Hey, venez sur Twitch, vous allez voir le comble du bonheur humain, là. Ça, c'est Outre-mer, hein? Ça veut dire qu'on ramasse des gens un peu partout à travers le monde sur cette diffusion web de la radio que vous aimez, Boulevard 102.1. mais des fois, il y en a quelques-uns qui ont manqué... qui ont manqué d'éducation, disons-le comme ça. Et là, on est en train d'avoir une conversation avec un cousin français qui n'est pas vraiment notre cousin. On dirait l'indésirable a passé le balai. Ça aura été notre fou rire de la journée. Hey, j'espère que vous allez bien dans l'heure CV à 10h41. C'est un bonheur de vous parler du concours par excellence du printemps ici. Honnêtement, on ne peut pas être plus heureux de vous offrir ce genre de choses-là. Et c'est super simple, en fait, pour participer. Il faut écouter Boulevard 102.1. Aujourd'hui, ben, c'est la journée où ça commence officiellement, où on va même pouvoir faire des finalistes, mais c'est tout simplement en écoutant la radio puis en allant mettre l'indice sur le site web. Je vous explique, OK? On vous envoie, parce que vous êtes tripeux de musique, vous êtes tripeux de sport, faire un voyage de tripeux. Le rock and ball, c'est quoi? On lance ça, en fait. C'est qu'on vous envoie en Californie. Vol, hébergement, argent de poche inclus. La partie rock, c'est quoi? C'est deux billets pour la tournée réunion de Blink-182. Vous allez aller voir Blink au Chase Center. Et c'est pas tout. Parce que le côté balle, c'est deux billets pour aller voir les Blue Jays contre les Giants au Oracle Park. C'est quand même assez fou. Merci à San Francisco en plus en juillet. Pour participer, c'est super simple. Mais ça, c'était pas un moment où j'ai joué du Blink qui va compter dans votre inscription. Mais quand vous entendez une chanson de Blink 182, un peu comme ça, en onde, mais ça, c'est un extrait, hein? C'est pas une chanson. Vous allez inscrire l'heure de la diffusion au blvd.fm dans la section concours. Et là, écoutez Gravel dans le retour cet après-midi parce qu'on va dévoiler le tout premier ou la toute première finaliste. C'est rapide de même. Donc aujourd'hui, concentrez-vous à écouter Boulevard 102.1. Il va y avoir, en fait, finaliste fait aujourd'hui et annoncé aussi dans l'émission de Denis Gravel avec Véro et Audrey. Merci à Variété 2020 d'embarquer dans notre trip comme ça, avec notre gang de fous comme ça. C'est grâce à eux, en passant, qu'on peut justement vous envoyer en voyage. Variété 2020, c'est un magasin de surplus d'inventaire à Québec. Puis c'est là où il y a plein de marchandises à chaque jour à des prix incroyables. Des vêtements, des jouets, de la literie, de l'électronique. Vous pouvez aller voir leur page Facebook, les encourager aussi, parce que ça vaut quand même 4000 $ ce voyage-là pour aller écouter Blink 182 en live, tournée Réunion. Hein? C'est important de le mentionner, puis d'aller voir de la balle aussi. Beau, beau trip à San Francisco. Je vous souhaite bonne chance à tous et chacun. Puis c'est simple en plus, c'est juste de garder votre bonne habitude, soit d'écouter Boulevard 102.1. Les ramassés de canettes, Jérôme 50, vous n'aurez pas besoin de faire ça en écoutant Boulevard, justement, pas ramasser des canettes pour aller à San Francisco. Ça va être gratuit si tu gagnes. On revient dans un instant.
It's... Leur CV avec Pascal CV.
On va passer en revue les nouvelles des dernières heures, entre autres incendie criminel à Val-Bélair. C'est partout, en fait, dans l'actualité. Ça s'est fait cette nuit, en fait, de lundi à mardi, dans un logement qui était inhabité dans le secteur de Val-Bélair. Bon, ça s'est déclaré à 2 heures du matin dans l'appartement du sous-sol. Ça, c'est sur le boulevard Pidos Sud. Et le rez-de-chaussée est occupé par des commerces, notamment. Il y a un salon de bronzage là-bas pour vous, essayer de vous mettre en place là, mentalement aussi. Et on s'est déplacé rapidement sur les lieux. On a vu justement que l'incendie était de nature criminelle. Les flammes ont été rapidement maîtrisées. Heureusement, personne n'a été blessé. Comme je vous disais, c'était inhabité. Et c'est la bonne nouvelle de tout ça. C'est sûr qu'il y a une enquête en ce moment, là, les policiers, les pompiers qui sont restés un petit peu plus longtemps. Parlant des policiers, il y a actuellement la Sûreté du Québec qui accentue les moyens de pression. Il faut en parler parce que justement, il y a une image un peu partout particulière par rapport aux policiers en ce moment qui sont en négociation pour le renouvellement de leur contrat. C'est comme ça ajoute de la pression sur eux. Il y a 5700 policiers de la Sûreté du Québec qui accentuent leurs moyens de pression. Et là, on demande au gouvernement, justement, que ça aille plus vite. Donc, on va porter une casquette rouge dès aujourd'hui. C'est à la demande de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec. On va demander justement d'avoir un genre de blitz pour la période estivale pour se faire voir, se faire entendre. Dans les prochaines semaines, on dit que ça va être crucial. En fait, l'été s'en vient. C'est une période qui est critique pour les effectifs policiers avec, peut-être crue printanière, incendie de forêt, si jamais c'est encore un été comme on a eu l'an dernier, mais aussi tout ce qui est événement. Hein. Et ils sont sans contrat de travail depuis 2 ans, les agents de la Sûreté du Québec. Et on a rejeté à 60% l'entente de principe entre syndicats et gouvernement québécois en septembre 2023. Donc, c'est pas seulement les employés de la santé ou encore les enseignants qui revoient leur salaire et demandent plus. Bien, c'est beaucoup de corps de métier. Et l'entente, en fait, qu'on a rejetée, ça comprenait des augmentations salariales cumulées de l'ordre de 21% sur 5 ans. Bien, ça comportait un rattrapage salarial. Puis l'ajout d'une nouvelle prime nationale aussi, pour ceux qui se demandaient. Mais on était en retard, finalement, dans bien des secteurs. Arrestation, saisie d'armes dans Saint-Sauveur. Il y a un homme de 29 ans qui a été arrêté dimanche soir par les enquêteurs du projet Malsain dans le quartier Saint-Sauveur. Il y a beaucoup d'armes qui ont été saisies aussi. Il y a une femme de 32 ans qui a été arrêtée hier. On était dans le coin de l'avenue du Rocher. Il y a eu violation d'engagement, perquisition. On a mis la main sur 2 armes longues, dont une de calibre quand même de 12 tronçonnées, puis un pistolet de 9 mm, là. Chargeur avec des munitions, des répliques d'armes aussi à air comprimé. On a mentionné dans un communiqué là, qu'il y avait environ du liquide pour faire des petits incendies criminels aussi qui avaient été interceptés, puis du liquide, enfin 1 litre là, de liquide qui s'apparentait à du GHB qui a été retrouvé. Peut-être que c'est une bonne chose que ce soit maintenant entre les mains des policiers. Au fédéral, on en parle beaucoup parce que le budget est important, la taille du déficit, la mauvaise surprise du budget Freeland qui s'ajoute à celle du budget du Québec, mais bon. Le budget doit être déposé le 16 avril. On est seulement le 2 avril en ce moment, mais on en parle déjà parce que Justin Trudeau et la ministre des Finances ont dévoilé au compte-gouttes certaines mesures en fait, qui vont s'y retrouver. On n'a jamais vu ça sur la scène fédérale. Là. 2 avril, normalement, on n'en entend vraiment, vraiment pas parler si la date du dépôt est prévue pour le 16, mais c'est un chapitre extrêmement important pour la politique au fédéral en ce moment. Puis c'est un exercice qui se veut fondamental pour la suite de Justin Trudeau, c'est sûr. À cet égard-là, il y a des nouvelles qui pourraient être mauvaises. On le sait, on sort de la pandémie, on a un contexte inflationniste, c'est pas facile. À l'international, on a pris aussi des décisions d'entraide. Mais il y a quelques mois à peine, la ministre Chrystia Freeland avait dit, dans un énoncé économique, là, que le déficit ne dépasserait pas les 40 milliards de dollars pour cet exercice financier-là, soit 2023-2024, qui a pris fin le 31 mars dernier. Donc, avant-hier. Mais là, on est au moment de prononcer cette annonce économique-là, puis on voit à la hausse, là, on revoit à la hausse la projection des déficits pour les 5 prochaines années. Est-ce qu'on est si surpris que ça? Non. On l'a vécu au Québec il y a quelques jours seulement. Et il y a un ralentissement de l'économie canadienne. Il y a une hausse des taux d'intérêt qui plombait aussi sur les finances d'Ottawa qui ont été prises en compte. Donc là, selon certains experts, dont le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, avec les nouveaux calculs au début du mois dernier, le déficit là, pour le dernier exercice financier devrait être autour finalement de 46,8 milliards de dollars. C'est quand même 7 milliards de plus là, qu'en novembre dernier. Ça a joué beaucoup, ça a fluctué beaucoup. En coulisses, on dit que le manque à gagner pourrait être plus élevé encore puis pourrait friser les 50 milliards de dollars. Puis dans le récent rapport, on dit qu'on s'attend aussi à une croissance de l'économie canadienne qui demeure léthargique là, tout au long de l'année. Depuis quelques mois, on n'a rien de nouveau puis il n'y a rien qui a été fait pour justement s'en sortir. Il y a aussi le Québec qui fait jaser pour une pérennité importante. Les difficultés du grand marché de Québec qui reviennent dans l'actualité. Y allez-vous au Grand Marché, 88-971-1021 ou encore sur Twitch? Est-ce que vous en profitez de ce marché-là? Est-ce que vous avez des commerçants que vous aimez? Mais là, ça ne fonctionne pas nécessairement. Puis ça pousse la ville à revoir son modèle d'affaires. Il y avait des subventions qui avaient fait beaucoup jaser. Le déménagement aussi du marché du Vieux-Port au Grand Marché avait fait énormément jaser. Et là, on a des difficultés financières importantes. Puis ça force justement Québec à revoir le modèle d'affaires. Il y a une conférence de presse qui est prévue ce matin à 11h30 pour parler de ces détails-là. La Ville de Québec et la coopérative des horticulteurs de Québec ont conclu une entente pour un versement d'une subvention, encore d'une somme maximale là, de 180 000 $. Puis on veut d'autres changements. Je me souviens d'avoir parlé à des commerçants qui parlaient des baux, entre autres, là, qui étaient vraiment plus élevés qu'auparavant lors du marché du Vieux-Port. Je ne sais pas si ça a été la meilleure stratégie économique. Admettons qu'on permettait à tous ceux qui étaient au marché du Vieux-Port d'avoir, je ne sais pas moi, une année au même prix pour son bail à l'intérieur du grand marché, puis qu'on faisait en sorte que les baux soient moins chers au lieu d'être constamment subventionnés. Est-ce qu'il y aurait eu plus de monde, donc plus d'activités, plus de créativité? Si on ne travaillait pas en silo aussi, on dirait que des fois, les commerces là, travaillent chacun de leur côté, je comprends, mais quand on est dans un regroupement comme un grand marché, peut-être que le fait d'avoir plus de rencontres puis d'avoir une genre d'homogénéité ensemble puis d'avoir une fluidité de commercialisation puis de faire des partenariats ensemble, ça aurait été agréable, je sais pas. Mais on va octroyer cette subvention de 180 000 $-là puis ça, c'est pour le rachat d'une portion côté amélioration locative. Là. Mais ça va quand même faire beaucoup jaser parce que depuis son ouverture, le Grand Marché, c'est un succès, oui, d'achalandage quelconque, mais rapidement, on a eu besoin d'aide en fait financière, même si ça génère entre 750 000 et 1 million de visites annuellement. Fait qu'il y a un petit quelque chose, il y a des gens qui se déplaçaient, mais qui ne consommaient pas assez. Puis c'est là où le bas blesse, puis c'est là où il faut peut-être revoir notre jeu. Est-ce qu'il est trop tard? C'est pas mal ça que je me demande. Des gens qui disent « Non, moi, j'y vais plus à Québec. Je préférais celui du Vieux-Port. » Après ça, oui, c'est un peu étrange parce qu'en pandémie, il y a comme eu une remontée. Les gens y allaient magasiner, en fait, au Grand Marché parce que c'était une épicerie où il y avait un petit peu moins de gens puis on se sentait mieux. Mais là, maintenant, peut-être qu'on a perdu ces habitudes-là. C'est une bonne question, en fait. Mais le Grand Marché qui devrait rester, en fait, dans nos habitudes de consommation, mais qui prend un peu la poudre d'escampette là, dans nos habitudes, peut-être pour les prix. Ça revient aussi beaucoup par texto, comme quoi la marchandise est un peu plus chère qu'espérée. C'est peut-être justement parce que les gens qui sont sur place ont des coûts d'exploitation qui sont plus élevés? C'est une question qu'on peut se poser. Et je termine avec un sondage qui a été fait sur la sobriété énergétique. Ah, le sujet de la dernière année. Les Québécois qui sont prêts à faire des sacrifices, oui, mais refusent une hausse des tarifs d'hydroélectricité. Donc oui, vous êtes prêts peut-être à programmer votre lave-vaisselle pour qu'il parte pendant la nuit. Vous êtes prêts à faire des économies de consommation d'énergie, mais vous ne voulez rien savoir de tout ce qui est hausse de tarifs d'Hydro-Québec, selon un sondage léger qui paraît aujourd'hui dans l'actualité. Une grande majorité des consommateurs répondent à positivement à consommer moins, mais pas à payer plus. On se dit qu'on est prêt à faire des sacrifices du genre, OK? Être capable de baisser les lumières, éteindre les lumières au bureau, établir un programme d'aide pour encourager les propriétaires à rénover les résidences de façon éco-énergétique, de donner un crédit dépôt à ceux qui consomment peu d'électricité. Oh, non, on est tout d'accord avec ça. Puis individuellement, on est d'accord à débrancher des appareils qui sont peu utilisés. Fermer les lumières des pièces quand il n'y a personne. Réduire la durée de la douche de 4 à 5 minutes. Baisser le chauffage quand on n'est pas à la maison ou pendant la nuit. Baisser de 1 degré la température du chauffe-eau pour faire une différence qui est quelconque, tout le monde ensemble, mais peut-être pas dans notre maison en général. On est prêt aussi à faire fonctionner la vaisselle la nuit, comme je vous disais, à prendre des douches plutôt que des bains, à réduire de 5 degrés la climatisation de la résidence, mais on ne veut aucune hausse du tarif. C'est peut-être l'échange qu'on peut faire avec le gouvernement. Je ne sais pas si on va s'y baser, par exemple. Ça, c'est toujours à voir. Mais vous êtes prêts à faire les sacrifices en question. Hey, merci beaucoup d'avoir été là dans l'heure CV. On se retrouve dans un instant dans Marceau le midi. Merci à tous les Twitchers aussi qui ont été d'une grande aide aujourd'hui. Ça a été un peu complexe là, d'animer l'émission avec tout ça, mais vous avez été vraiment mes partenaires de bureau parfaits. On se retrouve dès demain, 10h. Oui, parce que l'heure CV, ben, c'est de 10 à 11. Marceau s'en vient. Il est en pleine forme après le congé de Pâques, congé de Pascal. Ça y a fait du bien, je pense. Puis Sam Gauthier aussi sera là. On a une émission plus que chargée. Soyez sur les ondes pour le concours, entre autres. Hein? On dit ça, mais le Rock'n'Ball, c'est aujourd'hui qu'on fait des finalistes pour la toute première fois. Puis ça pourrait être vous, si vous entendez une chanson de Blink. Allez l'inscrire immédiatement là, quand vous l'entendez, avec l'heure à laquelle vous l'entendez, au blvd.fm.
Vous voulez vendre votre